Alors bonjour, vous êtes bien sur Lilith, Martine et les autres. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la presse féminine. Donc pour parler de ça, en fait, le premier constat qu'on a fait, c'était qu'il y a beaucoup de mépris autour de la presse féminine et que la critique est un peu facile autour de tous ces journaux. Et ça commence par le fait de mépriser un petit peu les personnes qui le lisent aussi. Avec des remarques de « Ah, mais toi, tu lis ça, je pensais pas » et tout. Et du coup, pour la personne, souvent, on se défend de lire ce genre de presse féminine. Genre, moi, je sais que quand je voyage en train, souvent, j'aime bien acheter des Cosmos et pendant longtemps, des Cosmopolitains, pardon, pour les personnes qui connaissent pas beaucoup la presse féminine. Et du coup, moi, pendant longtemps, j'achetais aussi un courrier international pour montrer que j'étais pas bête et que c'était pas parce que je disais cosmopolitain que j'étais bête. Et du coup, il y a un peu un mépris systématique comme ça. Alors que, une des premières choses qu'on peut dire, c'est que finalement, la presse féminine, c'est pas un ensemble homogène. Et qu'il y a des journaux très différents au sein de cette presse. Donc ça, on développera un peu plus tard, notamment avec l'historique de la presse féminine. Et que, en fait, cette dévalorisation systématique, elle correspond à une dévalorisation de ce qui est féminin en général. Et comme la presse féminine, elle parle beaucoup de sujets dits féminins, on va avoir tendance à dévaloriser ça. De la même manière qu'on va avoir tendance à valoriser tout ce qui est du masculin et de l'ordre du viril. Et du coup, les gens, même s'ils ont aucune idée du contenu vraiment de ce qu'il y a dans ces journaux, ils décrètent qu'en plus, c'est bien pensant un petit peu de dire que ces journaux-là sont nuls parce qu'ils contribuent au patriarcat, à la norme dominante sexiste, etc. Et du coup, on justifie aussi ce mépris par le contenu même des journaux. Alors que, si on regarde un journal masculin qui est L'Équipe, par exemple, eh bien, on pourrait bien mépriser aussi son contenu parce que finalement, ça décrit des matchs de foot. Enfin, c'est pas non plus des sujets qui vont changer le monde en général. Mais pourtant, on se rend compte que acheter L'Équipe, c'est pas un truc que les mecs, ils vont faire, ils vont s'en cacher ou ils vont avoir à se justifier de ça. Et pareil, moi j'ai l'exemple dans les CDI au collège. Ma sœur, elle m'a dit que la presse qui recevait, il y a à peu près 5 journaux, dont 3 qui sont des journaux de foot. Et les autres, c'est Okapi, je sais pas quoi. Bref, c'est quand même bien admis qu'on a le droit de lire des journaux de foot. Mais par contre, on n'a pas du tout le droit de lire de la presse féminine. Donc, en fait, nous, c'est un peu en opposition à cette critique facile qu'on s'est posée. Et on n'a pas envie de mépriser cette presse-là. Nous, on a essayé, en fait, de prendre au sérieux un petit peu toute cette presse, les journaux qu'il y a et leur contenu. Et de faire des critiques qui vont essayer... des critiques et aussi réfléchir à ce qu'est la presse féminine en général et quelle place elle a dans la société en prenant ça comme un objet sérieux de réflexion quoi. Donc du coup et surtout que c'est un peu comme on va le voir un peu plus tard aussi, c'est la seule presse qui s'adresse aux femmes mais aussi qui s'adresse pas que aux hommes parce que le reste de la presse s'adresse plutôt aux hommes. Donc voilà, c'est un peu le sujet de l'émission, de ne pas reproduire ce mépris et cette dévalorisation systématique sur les journaux féminins, mais plutôt d'essayer de faire une analyse un peu plus poussée de ce qu'il y a.
I'm just a virgin.
Donc vous êtes bien sur Radio Lilith, sur Radio Canu 102.2. Et maintenant, on va écouter un petit historique de la presse féminine.
Oui, donc alors je vais vous parler de l'historique de la presse féminine. Et en fait, alors j'ai pas trouvé beaucoup de choses parce qu'il y a très peu d'écrits là-dessus, très peu d'études, vu que c'est considéré comme un sujet futile. Et donc, alors il y a trois types de féminins. Il y a l'aristocratique, le bourgeois et le populaire. Il y a d'abord l'aristocratique qui est apparue sous Louis XV, qui est très liée à la mode. Ensuite, il y a la presse bourgeoise qui est apparue lors de la révolution industrielle dans la deuxième moitié du XIXe et jusqu'aux Trente Glorieuses. Et il y a la presse féminine populaire qui est apparue après les lois scolaires sous la Troisième République. Donc c'était beaucoup la presse du cœur qui était aussi liée à la société de consommation qui naissait. Et en fait, ces trois familles sont divisées en deux branches. Donc il y a la branche intellectuelle engagée féministe, en passant par le journal aristocratique des dames en 1759, au mensuel des ouvrières militantes, la politique des femmes après 1848, en passant par le quotidien La Fronde. Et ensuite, il y a la branche plus sensuelle qui parle de beauté, de cuisine, de loisirs, machin. Et donc, alors, au début, il y a eu des journaux pour un lectorat féminin à partir du XVIIe siècle. Et ensuite, ça s'est développé au XVIIIe siècle avec le mouvement d'émancipation des femmes. Donc, il y a des publications qui commencent à parler des femmes, qui commencent à avoir un rôle social plus visible. Donc, par exemple, le Journal des Dames parle de mode, de littérature. Il critique le fait que c'est les parents qui choisissent pour les enfants s'ils doivent se marier avec qui. Ensuite, il y a le cabinet des modes qui critique, par exemple, le corset à baleine rigide. Bon, là, c'est plus trop d'actualité, mais à l'époque, ça devait être vachement révolutionnaire. Et à la Révolution française, il y a l'éclosion de plusieurs titres qui n'ont pas duré très longtemps, mais qui étaient assez militants. Et voilà, quoi. Et donc du coup, il y a à la fois les journaux qui cantonnent bien la femme dans le rôle de ménagère comme le petit courrier des dames, et d'autres qui sont plus militants, aussi bien en France que dans les pays anglo-saxons, par exemple The Lily, The Genius of Liberty, la Gazette des Femmes, la Voix des Femmes, la Politique des Femmes, l'Opinion des Femmes. Donc en 1848, dans la Politique des Femmes, je veux lire un extrait. Alors il dit: il faut que la femme en France gouverne réellement, qu'on la prenne dans la chaumière du paysan ou dans les somptueux appartements de l'aristocratie. La loi est contre nous, c'est vrai, mais les mœurs sont pour nous. Si votre loi n'est plus en rapport avec les mœurs, changez les législateurs. En France, toute la presse féminine sera censurée durant le Second Empire, mais réapparaîtra dans les années 1880 avec comme figure de proue La Fronde. Voilà, donc c'est juste marrant de voir que déjà à cette époque-là, ils ne doutaient peut-être pas qu'il faudrait attendre aussi longtemps pour que les femmes aient accès au changement de la législation, quoi. Donc il y a La Fronde qui est lancée en 1897 par la journaliste Marguerite Durand. Et ça parle de politique, de sport, de haute finance. Et c'est aussi écrit par des femmes, c'est rédigé par des femmes, c'est publié par des femmes. Donc c'est ça qui fait la spécificité à ce moment-là. Et après, au XXe siècle, le premier magazine de presse féminine, c'est Midi Net. Et donc l'entrée des femmes dans la vie active et la reconnaissance de leurs droits civiques permet l'émergence de plein de nouveaux titres politiques. Donc il y a par exemple l'Écho des Françaises, Antoinette, qui est le journal de la CGT en 1955. Et après mai 68, le mouvement de libération des femmes publie de nombreux titres qui vont disparaître à la fin des années 70, en gros. Et du coup, le fait que les journaux féministes disparaissent, ça fait que les journaux juste féminins intègrent des propos un petit peu féministes. Ça influe sur eux, quoi. Et après, en ce moment, il y a des nouveaux titres qui apparaissent de nos jours, enfin surtout sur le net. Alors il y a par exemple Double X et les poupées en pantalon. Après, je sais pas si à quel point c'est féministe. Et en journal papier, il y a aussi Cosette qui est là depuis. Il a fait 4 numéros. Et Et voilà, ça se revendique un peu plus féministe, quoi. Enfin, disons qu'il n'y a pas de pub et il y a moins de clichés sur les femmes.
Mm-hmm. On en parlera tout à l'heure aussi. Donc, merci pour ce petit contexte historique. Et maintenant, on va avoir plus un contexte global des femmes dans les médias et de la presse féminine par rapport à la presse en général.
Oui, moi, j'ai fait mes recherches plus sur la presse en général et la place, du coup, de la presse féminine dans les médias en général. Donc, déjà, dire que ce sont les hommes qui font l'info... en majorité, quoi, que c'est 38% des titulaires d'une carte de presse qui sont des femmes, et que dans les infos, en fait, c'est environ 20% des femmes qui constituent l'info, qui sont dans les colonnes, quoi, qui sont citées ou qui constituent l'info. En France, c'est 17%, alors que la moyenne mondiale, c'est 21%. Et que, bon, alors je vais balancer plein de chiffres, 86% des personnes décrites comme porte-parole sont des hommes, donc dans les médias, que 96% des infos n'abordent pas la question des inégalités entre les sexes, et qu'on trouve quasiment pas de femmes en une des journaux. Il faut dire que les femmes lisent peu les quotidiens en général, et que la presse quotidienne s'adresse à un lecteur universel qui est un lecteur masculin, du coup. Et que les informations, en général, les informations les plus importantes, de la manière dont elles sont hiérarchisées, c'est souvent des informations qui mettent en valeur la compétition, qu'elle soit sportive, politique ou économique, alors que les femmes, elles, sont plus attirées. Alors, bien sûr, on ne le dit pas de manière naturaliste, c'est-à-dire elles ne sont pas naturellement attirées par la santé, le social, l'environnement, etc. Mais que du coup, c'est ce qui est relégué au second plan et c'est ce qui est pour les femmes et ce qui les attire, en tout cas dans l'imaginaire des gens. Et voilà, pas forcément dans la réalité, mais en majorité. Et donc, il y a un clivage entre la compétition et la compassion voilà, qui serait féminin et masculin. Voilà. Et ça rappelle aussi le partage traditionnel entre les sexes et ça repose sur la construction sociale et politique des genres, quoi, la compassion d'un côté et la compétition de l'autre. Voilà, j'ai découvert qu'il existe une association des femmes journalistes et elle raconte aussi que les femmes politiques ne viennent pas se faire interviewer, que les hommes viennent plus facilement aussi au devant des journalistes pour se faire interviewer et que elles, spontanément, viennent pas se faire interviewer. Elle expliquait ça en disant que souvent on leur dit que le fait que les femmes ne soient pas vraiment représentées dans les informations, dans les médias, c'est aussi un reflet de la réalité et que les médias sont là pour refléter la réalité et que ce n'est pas les médias du coup qui font la réalité. Mais elle dit que du coup, les médias aggravent aussi cette disproportion qui préexiste de toute façon aux médias parce que à cause de ça et à cause du fait aussi que les femmes, elles se sentent moins légitimes à se faire interviewer. Elle racontait que elle est la présidente donc, de cette association, l'association des femmes journalistes, racontait qu'elle était spécialisée dans l'information économique et quand elle essayait de contacter des femmes cadres, en fait, pour les interviewer, elles réagissent souvent en disant que « mais vous êtes sûre que je suis légitime ?»« Attendez, je vais demander à mon patron d'abord », etc. Et que c'est, du coup, c'est plus difficile aussi d'accéder à ces femmes-là. Elle souligne aussi qu'il y a une corrélation entre le nombre de femmes mentionnées dans les colonnes de la presse et le fait que ce soit une femme qui écrit. Ça ne veut pas dire non plus que c'est plus subversif. Ça peut aussi renforcer des stéréotypes, mais quand même, quand c'est une femme qui écrit, il y a plus de femmes qui sont mentionnées. Et au niveau de leur présence aussi dans la presse, en fait, il y a une femme sur six qui est anonyme. Quand on cite une femme sur six est anonyme, alors que pour les hommes, c'est 1 sur 33. Et qu'il y a une femme sur cinq qui ne voit pas sa profession mentionnée, alors que pour les hommes, c'est un homme sur 20. Et une femme sur cinq qui est présentée avec un lien familial, alors que c'est 1 sur 16 pour les hommes, et que souvent, pour les hommes, ça constitue une information complémentaire supplémentaire, alors que pour les femmes, ça les définit avec ce lien, elles se définissent par ce lien familial. Donc elles sont encore une fois cantonnées dans les sphères de l'intime, de la famille, de l'intérieur, voilà. Elle racontait aussi quelque chose d'assez drôle parce que elle disait par contre on anonymise plus les hommes quand c'est dans le cadre d'un informateur secret. Elle citait les grandes affaires genre l'affaire Clearstream et que quand c'est dans ce cas-là du coup les hommes ils sont anonymisés et que l'AFJ du coup l'association des femmes journalistes l'appelle l'effet James Bond, voilà.
Et ouais, ce que tu veux dire par là, en fait, c'est que quand c'est des hommes qui sont anonymés, du coup, en fait, ça les valorise parce que ça veut dire que c'est des agents secrets, alors que les femmes, elles sont juste anonymées parce qu'on ne cite pas leur nom, quoi. Oh, c'est
voilà.
Un peu ça.
C'est vraiment pas du tout le même statut, du coup. C'est sûr. Et quand on nomme... Ouais, donc elle donnait un exemple assez horrible, mais bon. Elle disait quand on nomme une femme, on donne plus souvent son prénom, surtout si elle est jeune, et seulement son prénom. Et l'exemple tiré de West France, c'est un exemple qui veut dire aussi autre chose, mais bon, je vais le dire. Je cite « Denise est une jolie Congolaise de 20 ans. Elle a été capturée et violée pendant un mois ». Voilà, l'exemple qui montre...
parle de lui-même.
Qui parle de lui-même, et voilà, pour illustrer aussi qu'on donne plutôt juste le prénom, que c'est une jolie Congolaise de 20 ans, c'est Denise. Voilà, et au niveau des experts médiatiques, je rejoins aussi Sophie qui disait qu'elle avait eu du mal à trouver des informations sur la presse féminine, parce que finalement, c'est pas sérieux, c'est pas considéré comme sérieux, et j'ai trouvé que... Il y a 83% des experts médiatiques qui sont des hommes et que, en fait, quand dans ce domaine-là, les femmes, elles sont plus souvent convoquées pour apporter un témoignage perso ou pour incarner la vox populi. Voilà. Et j'ai un autre exemple aussi que j'ai trouvé quelque part qui était assez parlant de lui-même. C'est dans la une du métro, un des gros titres, c'était « La France en forme, de point, les ventes de bon essai ont augmenté de 7% en 4 ans ». Voilà, c'était un des titres principaux du métro et que c'était accompagné de la photo d'une femme à la veste ouverte sur son soutien-gorge.
Ouais, du coup, quand les femmes font la une des journaux, c'est un peu... Juste parce qu'elles ont des plus gros seins,
ouais.
C'est ça en gros.
C'est pas dégradant du tout. Et du coup, ouais, donc du coup, la presse féminine, elle commence tout juste à être un peu plus critiquée et commence tout juste à avoir des études un peu plus universitaires, enfin ou sérieuses, qui prend en compte, en considération, la presse féminine parce que jusque-là, c'était vraiment relégué par comme pas faisant partie vraiment des vrais médias, quoi. Et du coup, que cette presse-là, elle a une mauvaise image, qu'elle est méprisée presque systématiquement, et ça contribue aussi à mépriser les femmes qui les lisent. Donc il y aurait une presse sérieuse et une presse bien moins sérieuse à rejeter, et ce seraient les médias féminins. Mais comme, du coup, nous, on a envie de montrer qu'avant tout, la presse générale, les médias, c'est masculin et ça s'adresse... de manière... Enfin, c'est les hommes qui parlent à des hommes avant tout. Du coup, bah, forcément, il y a une presse spécialisée pour les femmes qui se développe. Et que... Pourtant, les femmes, elles vont plus à la... Elles lisent plus, elles vont plus à la bibliothèque, elles sont plus... Enfin, elles lisent plus de romans, etc. Mais elles lisent moins les quotidiens. Et... même si la presse féminine contribue... on est bien d'accord, de toute manière, que la presse féminine, elle contribue à une vision patriarcale de la société et que c'est un objet qui découle de la domination masculine et elle a une place, et elle essaye de se faire une place dans ce système et du coup, nous, on a essayé de réfléchir à quelle place elle avait dans ce système. Et on se disait aussi que c'est pour ça que les femmes se sentent plus légitimes à lire la presse féminine parce que finalement, bah, c'est plus pour elles, quoi. C'est la presse qui leur est destinée, hein, entre guillemets. Voilà pour le contexte général. On va écouter un peu de musique. Tout à l'heure, on a écouté Broadcast. Et maintenant, je ne sais pas. Radio Lilith Martine et les autres sur Radio Canu. Et on est en train de parler de la presse féminine. Et donc juste avant cette pause musicale qui était The Rogers Sisters, voilà, j'étais en train de dire que la presse féminine contribuait bien sûr à renforcer le patriarcat et qu'elle était dans un statut normatif, quoi. Mais qu'elle essayait aussi de trouver sa place dans le système et qu'elle découlait aussi de ce système de domination masculine générale qu'il y a dans les médias en général.
Et, voire dans la société en général.
Voire dans la société en général, puisque tout est lié. Et, et du coup, Elisa va continuer un peu sur cette idée-là.
Ouais, donc nous, on a essayé d'articuler un petit peu notre réflexion, entre guillemets, parce que donc on a vu que la presse féminine elle a un côté normatif donc et un autre côté qui est elle va donner des stratégies. Donc pour essayer d'éclaircir un petit peu ces deux mots, c'est en gros en fait le côté stratégique c'est faire avec les contraintes. Donc c'est-à-dire que on a admis qu'il y avait des contraintes qui s'exerçaient sur les femmes. Et du coup, on va trouver des stratégies et des espaces à partir de ça. Et le côté plus normatif, c'est que du coup, on accepte ces contraintes et on ne va pas les remettre en question. Donc, c'est un petit peu autour de ces deux idées qu'on va essayer de donner des exemples maintenant. Et du coup, moi, là, je vais développer un petit peu plus le côté stratégique. C'est-à-dire qu'en fait... on va trouver dans ces journaux pas mal de choses qui vont donner aux femmes des petites stratégies du quotidien pour renforcer leur autonomie ou pour s'en sortir avec les différentes contraintes qui s'exercent sur elles. Par exemple, on voit que il y a beaucoup de journaux qui parlent des régimes, de la mode, du maquillage, etc. Mais on se rend compte que dans la réalité, en fait, oui, effectivement, être une femme dans le système dans lequel on vit, c'est être mince. On doit tendre à être mince, en tout cas, essayer de se maquiller pour être belle, etc. Et du coup, ces journaux, ils sont stratégiques dans la mesure où ils essayent de donner un petit peu des tuyaux pour que les femmes, elles sachent faire ça et qu'elles puissent éventuellement retirer un petit peu de pouvoir par rapport à ça et utiliser les contraintes en fait dans lesquelles elles sont et du coup le fait par exemple de tirer à boulet rouge sur les journaux féminins parce qu'ils proposent beaucoup de régimes c'est un petit peu hypocrite finalement et en fait ça fait oublier que bah, c'est la société dans son ensemble qui crée la contrainte du fait que les femmes, eh ben, elles doivent être minces, etc. Et en fait, c'est leur faire porter la responsabilité. Et c'est un petit peu facile, en fait, de faire juste porter la responsabilité à ces journaux. Donc, voilà un petit peu pour, vite fait, donner des exemples de stratégies. Après, il y a aussi un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est le côté déculpabilisant un petit peu de certains journaux, hein, de certains articles. On ne parle pas en général ou quoi, mais et parce que en fait, donc les femmes sont soumises à plein de contraintes et à des contraintes contradictoires aussi. Par exemple, si on prend l'habillement et la mode. Et ben, une femme qui va parler de comment elle doit s'habiller ou quels achats elle a fait, ben, tout de suite on va lui dire ah tu parles chiffon et elle va passer pour une pimbèche parce que ben, tout ce qui l'intéresse c'est de parler de comment elle s'habille, etc. Alors que d'un autre côté, ben, si une femme elle arrive mal habillée et tout, et ben, on va lui reprocher aussi et on va lui demander d'être bien habillée et d'avoir intégré ses contraintes. Et du coup, ben, les journaux féminins, c'est un petit peu le seul espace où, où ben, on a le droit de se préoccuper de comment on doit être habillé et où on rend légitime ces sujets-là. Parce qu'effectivement, c'est des données qu'on a à maîtriser quand on est une femme et qu'on ben, veut un peu avoir du pouvoir dans des sphères qui correspondent à cette norme et où la domination masculine, elle s'exerce par rapport à ça, quoi.
En fait, c'est comment un peu trouver un espace de liberté avec toutes les contraintes qu'a une femme moderne, entre guillemets. Maintenant, une femme moderne, ce serait une femme qui travaille et aussi qui assure la vie de famille. Et que du coup, il y a peu, elle a beaucoup apporté et que du coup, elle essaye de... Enfin, c'est vrai que les journaux, ils sont centrés aussi sur cette femme active qui aussi gère la vie de famille. Et du coup, c'est aussi dans cette lignée qu'ils sont à essayer de trouver des stratégies ou donner des outils pour qu'elle puisse se débrouiller avec tout ça. Alors bien sûr, ils ne remettent pas en question le fait que la femme, elle est forcément obligée d'être sur tous les fronts. Mais du coup, ils tentent aussi de trouver...
donner des petites stratégies, en fait. Par exemple, on va avoir des articles sur comment s'habiller pour un entretien d'embauche ou des trucs comme ça, où on voit que ça va être légitime comme sujet et on n'a pas à culpabiliser de se préoccuper de ça, en fait. Donc, c'est un peu le seul espace où il y a des sujets comme ça qui sont pris au sérieux et où on culpabilise pas de s'en préoccuper. Et du coup, y a tout cet univers un petit peu féminin autour de l'habillement, du maquillage et tout ça, qu'on va développer un petit peu plus avec Sophie maintenant.
Alors, du coup, c'est un univers féminin dans les thèmes, effectivement, enfin, où là, ça aide à avoir des stratégies, par exemple, sur des sujets comme la pilule ou le cancer du sein, qui sont des sujets qui n'existent pas dans la presse en général, quoi, que ce serait bien que les gens en parlent en général. Mais de fait, c'est que dans la presse féminine qu'on trouve des articles là-dessus, de plus ou moins bonne qualité, quoi. Enfin, ouais, voilà, plein de thèmes qui concernent les femmes. Après, c'est pas seulement la cuisine, le maquillage et la mode, c'est aussi voilà les thèmes de société, la prostitution, la pornographie, le viol, des trucs comme ça, quoi. Et du coup, en fait, l'univers féminin, on le retrouve aussi dans la forme que prennent les magazines. Il y a beaucoup de témoignages, notamment, qui font, des femmes qui parlent à la première personne. Géraldine, 26 ans, secrétaire. Virginie, 29 ans, traductrice. Enfin, où on peut se reconnaître ou pas, mais en général, ils montrent un panel de femmes qui fait que tu te sens pas seule. Enfin, des fois, tu peux adhérer à des discours. Enfin, du coup, il parle du domaine intime et du coup, c'est bien qu'il y ait un espace quand même pour parler des choses comme ça.
Et puis, c'est quand même beaucoup aussi du partage d'expérience, de comment elles font, comment elles évoluent, etc. Et ce qu'on trouve nulle part ailleurs aussi, quoi.
Voilà, même si y a des choses qui sont dites qui sont un peu horribles, enfin, il y a des témoignages où on se retrouve aussi quelque part, quoi. Enfin, genre, il y a des articles sur... ma pire expérience sexuelle, enfin beaucoup de trucs comme ça, quoi. Après, il y a, enfin, ce qui est aussi assez peut-être féminin, c'est qu'ils donnent beaucoup de conseils, Donc, alors ils adorent les guides, genre le guide de survie après une première rupture, comment tout obtenir d'un mec. Enfin, après, il y a des côtés ridicules, mais des fois, c'est marrant. Et il y a aussi les tests, à la fois, c'est, enfin, voilà, c'est pas pris au sérieux, mais quelque part, ça permet d'être un support de discussion sur des trucs dont sinon on n'aurait jamais l'occasion de parler. Et voilà, donc beaucoup de confessions. Et après, dans la forme, c'est très esthétisant.
Ouais, peut-être que ce qu'on peut rajouter, comme tu viens de dire, en fait, sur les tests qui sont un support de discussion et tout, c'est aussi les journaux féminins, c'est un espace un peu non mixte, justement, où les nanas qui le lisent, elles le lisent souvent entre copines, et du coup, c'est des moments de discussion qui peuvent être sur des thèmes de l'intime ou de la sexualité ou même d'autres choses, mais où ben voilà, les nanas elles se retrouvent entre elles pour parler de ces sujets-là, quoi. Et je trouve que c'est aussi important à souligner un peu cet espace de non-mixité par rapport à ça. On va peut-être écouter une petite musique.
À tout à l'heure. Sur Radio Canu et vous écoutez Lilith Martine et les autres, une émission féministe et aujourd'hui on traite de la presse féminine et on vient d'écouter You Say Party, We Say Die et donc là on était en train de parler de quoi Elisa et toi en train de parler de la presse féminine.
Voilà, donc moi je vais continuer un petit peu sur notre analyse poussée de la presse féminine. En fait, pour dire que souvent dans ces journaux, ce qu'on retrouve, du fait qu'ils ne sont pas pris au sérieux, en fait, enfin, nous, on imagine que ça joue, eh ben, ils se permettent une liberté de ton qu'on ne peut pas forcément retrouver ailleurs. Et du coup, par exemple, ils parlent de sujets qu'on ne voit pas traités ailleurs. Donc, moi, j'ai vu souvent des articles qui traitaient de la transsexualité. Avec des témoignages de personnes et tout ça, alors que ben, dans le reste de la presse, en fait, ben, j'en vois rarement. Donc je trouve que c'est assez intéressant à souligner que ben, des sujets comme ça puissent avoir une place dans les journaux. Pareil, on va avoir des reportages plus poussés sur des Indiennes, comment elles vivent à l'autre bout du monde et leur sexualité, comment c'est, ou alors sur aux États-Unis, quelle place ont les évangélistes et qu'est-ce qui se passe par rapport à tous ceux qui prônent l'abstinence, etc. Enfin, des trucs assez graves qui se passent et dont on n'entend pas parler ailleurs, en fait, puisque c'est des sujets encore de femmes. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure avec Myriam, c'est pas ce qui fait ce qui a le plus de place dans la presse en général. Et d'autre part, il y a aussi, on peut trouver des discours qui sont en dehors de la norme de ce qui est dispensé dans les journaux en général. Par exemple, on va avoir des articles sur comment arriver à l'orgasme ou alors est-ce que la masturbation c'est grave ou pas, etc. L'autre fois, il y avait un article, par exemple, qui traitait de la bisexualité et pourquoi les jeunes filles, elles s'embrassent maintenant et elles s'en fichent, en fait. Et avec un discours, en fait, qui était de dire, maintenant, il n'y a plus vraiment de questions. Les jeunes se posent moins la question de ils sont hétéros, ils sont homos, et il y a plus de place donnée à la bisexualité, et c'est tant mieux. Voilà. Et d'un autre côté aussi, il y a tout le côté empowerment. Donc, le côté, toujours dans la question des stratégies, en fait. On va donner des stratégies aux nanas pour qu'elles aient plus confiance en elles. Enfin, il y a des journaux qui disent clairement que c'est leur but, un peu, de permettre aux nanas de prendre confiance en elles sur certains points. Par exemple, là, il y a un article, c'est un spécial amitié, et du coup, qui dit, par exemple, 17 idées pour garder le contact avec ses amis. Et comme ça, ça a l'air de rien, c'est comment garder contact avec ses copines. Après, on peut le voir autrement, parce que quand on sait l'isolement arrive très vite, en fait, quand on est dans un couple hétéro-normé, etc. Et que c'est quand même une grande variable qui fait que beaucoup de femmes n'arrivent pas à sortir de cas de violence conjugale, etc. Parce qu'elles ont plus d'amis et elles n'arrivent pas justement à garder ce contact. On peut le voir aussi comme des stratégies d'empowerment par rapport à ça, quoi. Des trucs de prise de confiance en soi ou quoi. Et il y a aussi, donc là c'est le même numéro, il y a un article qui s'appelle « Là, je ne vais pas me laisser faire ». Donc c'est des témoignages, différents témoignages de nanas face à des situations d'abus de pouvoir un peu, comment elles ont fait pour se dépêtrer de ça et riposter un peu. Donc on trouve ça dans la presse féminine et pareil, en fait c'est des discours qui ne sont pas dispensés en général, quoi, dans le reste de la presse ou des médias en général.
Et moi, j'avais un peu d'autres exemples sur le fait que, par exemple, la rédaction, elle défend... Enfin, les rédactions, pas de tous les magazines, parce que ça dépend des magazines, il y en a quand même des plus ou moins bien, des plus ou moins modernes, entre guillemets, ou je sais pas comment on peut dire, des plus ou moins avancées, mais... que souvent la rédaction défend le fait de vouloir autonomiser les femmes et de vouloir leur donner un peu de liberté. Et aussi, elles partent du fait que, enfin, notamment pour la rédaction de Glamour, voilà, j'ai lu ça, que, en fait, partent du fait que les femmes, elles manquent de confiance en elles et qu'ils veulent montrer des images, montrer des images identifiantes, donc où la femme elle peut s'identifier sans pour autant être normative. Donc ils se défendent eux aussi d'être normatifs. Alors bien sûr ça peut être discuté parce que justement nous entre nous on en a beaucoup discuté de savoir dans quelle mesure c'est normatif, dans quelle mesure ça permet aussi des petits espaces de liberté, des petits espaces d'autonomisation. Mais c'est complètement discutable de vouloir se dégager d'une image normative. Mais c'est quand même leur but et que je cite l'enjeu est bien de desserrer l'étau impressionnant des normes qui emprisonnent les femmes aujourd'hui. Il cite la rédaction de Glamour et par exemple il disait que les quatre rubriques essentielles de Glamour ce serait le look, beauté, la mode et tout ça, les people, les gens célèbres comme image de référence et que ils se privent pas aussi de montrer les people dans l'échec, parce que voir une people se casser la figure au sens propre ou figuré rassure sur ses propres performances. Voilà. Et que et ben ensuite c'est l'entertainment, ils appellent ça, c'est la culture au sens large, et les fiches pratiques psycho, cuisine, etc. Voilà, pour illustrer.
Du coup, on va passer peut-être à décrire un peu plus le côté normatif, justement, de ces journaux. Mm-hmm. Donc, c'est plus Sophie qui va nous en parler, maintenant.
Parce qu'après, bon, c'est vrai qu'il y a des les journaux sont plus ou moins normatifs, mais il y en a quand même, notamment 20 ans, je crois qu'il a la palme des journaux les plus sexistes et les plus horribles qui soient en termes d'une vision essentialiste de la femme, quoi. Parce qu'il y a quand même les trois quarts du magazine qui véhiculent l'image de l'éternel féminin, qui contribue à une vision patriarcale de la société en cantonnant la femme justement dans son rôle de ménagère. Et donc les journaux souvent conseillent les femmes pour que leur Jules soit satisfait. Alors là, j'ai un exemple que j'ai très envie de vous lire, c'est magnifique, c'est dans 20 ans. Le matin, les hommes et les femmes ont une perception tout à fait différente. Pour nous, il s'agit d'une course contre la montre visant à faire le maximum de choses en un minimum de temps. Résultat, on se maquille sous la douche, on avale un smoothie en testant nos tenues, le tout en préparant notre sac. Les hommes, eux, sont bien plus zen. Ils se lèvent, s'étirent, passent un zeste de gel dans leurs cheveux, s'habillent, puis disparaissent. Et du coup, alors après, ils nous expliquent comment on fait pour avoir une mine resplendissante, parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se réveille, le teint brouillé et une chevelure tristoune. Cernes, cheveux plats et haleine limite sont autant de dégâts nocturnes que vous vous devez de lui épargner. Donc il y a quand même pas mal de trucs comme ça quand même dans ces journaux-là. Enfin, voilà, donc après ils expliquent qu'il faut ce qu'il faut, alors donc il faut qu'ils soient heureux de vivre, donc on doit tout faire pour être à leur service. Après, ce qu'ils aiment pas, notre sale caractère, le partage de la salle de bain, enfin voilà, du coup il y a quand même des journaux qui portent, enfin on doit se reconnaître là-dedans, mais c'est quand même très difficile. Souvent que les modèles féminins, c'est souvent des femmes avec des colliers de perles, un peu style assistante de direction, et c'est pas toujours facile de s'identifier à ces femmes. Donc c'est quand même le modèle petit bourgeois qui est très présent, avec beaucoup de publicité où on doit acheter des bagues à 100 € pour être content. Là, enfin, après, c'est sûr que le fait qu'il y ait énormément de publicité dans ces magazines, ça c'est vachement en lien avec le contenu, parce qu'il faut que les annonceurs conservateurs soient contents de pouvoir mettre leur pub quand même. Alors après, il y a quand même des contradictions, parce qu'on peut très bien trouver des pubs L'Oréal à côté d'articles plus critiques, mais quand même, il y a beaucoup d'articles qui restent peu polémiques justement à cause de ça, quoi. Et donc voilà, donc il y a toujours la présence dans les publicités de la femme qui est très érotisée. Et donc ça appuie les faits que les femmes doivent se voir comme objet de désir pour séduire le Jules.
Et la femme Jules.
Et voilà, quoi. Donc du coup, ça s'appuie pas mal sur des normes morales où pour guider. Enfin, on voit qu'ils nous donnent des normes pour dire comment on doit décider de faire nos relations, et ça sert l'intérêt de la classe bourgeoise, quoi. Enfin, après, on a le droit de pas avoir des enfants, mais ça reste un peu bizarre, quoi. Après, il y a des articles comme « J'ai pas besoin d'un Jules, c'est grave ». Enfin, bref. Enfin, disons qu'on a le droit d'être un.
Ouais. Oui, ça part du fait que à la base, une femme, c'est en couple et hétérosexuel, quoi, de toute manière.
Voilà, et après, du coup, bah, ça pose quand même des questions, mais enfin, il n'y a pas de dimension sociale et politique du tout, en fait. C'est une psychologisation des sujets, donc.
Ouais, par exemple, pour la femme qui n'a pas d'enfant, donc c'est admis, c'est toléré, mais en même temps, bon, ben, c'est qu'il y a eu un problème avec sa mère dans son enfance, quoi. Donc tout est un peu psychologisé. Dès que ça sort un petit peu de la norme, c'est possible parce qu'on est moderne, mais en même temps, c'est qu'il y a un problème quand même quelque part, quoi.
Ouais, et puis c'est beaucoup autour de la réussite individuelle, en fait. Du coup, ça empêche de politiser les questions, parce que c'est juste, les journaux vont essayer de donner à chaque femme comment elle doit faire les bons choix, etc. mais sans permettre qu'il y ait une dimension collective en fait des contraintes qui sont présentes et de dire ben en fait c'est peut-être les contraintes en général qu'il faut essayer d'enlever quoi, c'est le côté politique comme ça qui manque un peu dans ces journaux quoi.
Ouais, c'est chaque femme personnellement qui va pouvoir résoudre ses problèmes, mais le problème il est surtout pas social, il est surtout pas politique, il est surtout pas lié au fait que les femmes sont dominées, etc. Tout ça c'est acquis, enfin c'est quand même considéré comme acquis dans les journaux.
Ouais, ils partent du modèle d'une femme post-féministe qui est déjà libérée en fait de toutes les inégalités, et du coup voilà, c'est la femme libérée, émancipée qui a plus de questions à se poser en gros sur les problèmes sociaux quoi.
Ouais, on va peut-être lancer une petite musique là-dessus. Enfin, si toutefois cela est possible.
Ben là, on a coupé un petit peu la musique puisqu'on n'a plus beaucoup de temps et c'était Au revoir Simone. ça fait rire mes collègues. Pour finir cette émission sur la presse féminine, on avait envie d'ouvrir un peu l'émission sur une nouvelle presse qui commence à émerger. Donc il y a Cosette qui est sortie en début d'année. Là, c'est le 4e numéro et ça sort tous les 2 mois. Donc Cosette, ça s'écrit C-A-U, comme on cause. Et le slogan, c'est « Plus féminine du cerveau que du capiton ». Alors, figurez-vous que j'ai regardé dans le dictionnaire ce que ça voulait dire, capiton.
Moi aussi.
Et t'as trouvé quoi ?
Bah, le bonnet.
Moi, j'ai trouvé « bourre de soie et de laine ». Bourre de soie et de laine. Donc, j'imagine que ça fait un peu comme une poupée de chiffon ou je sais pas, quelque chose comme ça. Alors, le truc important, donc ça, c'est un magazine féminin. qui se dit féminin, pas vraiment, qui se dit pas vraiment féministe, mais qui se dit féminin, plus féminine du cerveau en tout cas. Le truc important, c'est qu'il n'y a pas de pub et qu'il n'y a pas de pub du tout pendant cette
pendant journal
dans tout ce magazine. Et sinon, ben oui, en effet, c'est un petit peu plus les sujets sont un petit peu plus construits, un petit peu moins clichés, etc. Mais moi, je trouve que ça reste quand même, ça s'adresse quand même à une fille hétérosexuelle qui est en couple, etc.
Blanche, en général.
Oui, blanche. La couverture, c'est souvent quand même une mannequin, enfin en tout cas une jolie fille. Un peu décoiffée, un peu plus décoiffée que dans les autres, mais elle reste jolie fille, mannequin, et voilà.